four, three, two, one.
De Lilith Martinez et vous sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
Bonsoir et bienvenue.
Bonjour. Salut. Auditrice, auditeur.
Bienvenue sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et aujourd'hui, nous faisons notre grand retour de l'été avec Lilith et Martine et les autres, en alternance avec On n'est pas des cadeaux, un vendredi sur deux. C'est aujourd'hui, on va commencer, on est à nos 10 ans. Ouais ! Joyeux anniversaire à nous ! On attaque la saison 11 et bien sûr, on fera peut-être quelque chose pour nos 10 ans, mais c'est en cours de discussion.
Voilà, une partie, une boom, tout ça, un dance floor.
Un dance floor, un lap dance, on ne sait pas encore, on va voir un peu ce qu'il
en est. Un casse-boîte, pêche au canard.
Ah oui, une pêche au canard, on aurait des poussins comme ça, ça serait
une danse des canards même.
Et alors, cette émission de rentrée, elle est un peu sur qu'est-ce que tu as fait cet été ?
Bah moi j'ai vu le Tour de France, la Coupe du Monde et le feu d'artifice du 14 juillet.
Bien sûr.
J'ai fait le cocktail.
Fidèle au feu d'artifice, toujours.
Moi je crois que c'est la première fois de ma vie que je l'ai vu à Lyon cette année.
Ah, le feu d'artifice ?
Ouais.
Et tu l'as vu depuis où ?
Derrière des grillages de la piscine.
Excellent.
C'est le meilleur spot je crois.
Et donc voilà, et vous êtes donc avec nous pendant une heure d'émission de radio.
En direct.
En direct, live, depuis les studios de Radio Canu. Et maintenant, on va écouter...
La première carte postale sonore.
La première carte postale sonore.
Chère Lilith, cet été j'ai passé mon premier été de mère de famille. En janvier, comme prévu, je me suis fait ouvrir le bide.
Alors, tout d'abord, on se rend à la maternité, puis on va au bloc, puis on va d'abord prendre une douche à la bétadine, puis ensuite, voilà, on est sur la table dans le bloc, on est allongé, puis nous accroche les mains hein, pour pas qu'on bouge, bien sûr. Et puis il y a ensuite plusieurs bruits. Alors il y a d'abord des bruits métalliques lorsqu'il pose les outils avec fracas sur la table. Puis ensuite avec les outils, ils vont nous ouvrir le ventre. Hein, il faut bien ouvrir et écarter le ventre. Puis après, ils vont aspirer l'ictique. Ils aspirent le liquide amniotique pour qu'il n'y en ait pas trop pour bien nettoyer le bébé. Voilà le bébé. Il sort donc la bête. Et voilà, après, il faut tout nettoyer. Et voilà, après, c'est le moment des cris du bébé.
Boulboulou est né. J'étais contente parce que finalement, elle n'était pas moche. La césarienne, ça a fait un petit effet pressing et en plus, je l'ai tout de suite émis. Ouf, ça m'a bien rassurée parce qu'après, il faut se les farcir, ces petits fœtus à ciel ouvert. J'ai pris un congé parental, alors je me la suis trimballée un peu partout, la boule. Dans les manifs à Lyon, dans le Périgord, dans le Diwa, chez des potes dans le Bugey, dans le Pila, dans le Trièves. On est allé aussi faire des randos dans le Diwa, voir la mer à Marseille. Et on est aussi parti avec ma famille vers Saint-Jean-de-Maurienne, dans la montagne, où il y avait des chevaux.
Vous voulez savoir ce qu'on a fait au bonnet ?
Ouais.
Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, on les a tenus avec leurs ficelles, puisqu'on a... Après, on a monté dessus, et c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Et la prof, elle dit ça des gros mots.
Elle a dit des gros mots ou des moyens mots?
Des gros mots comme ça.
Elle n'arrêtait pas de dire que ces chiens, ils étaient C-H-I-E-N.
A-N-T même.
À un moment, le cheval, juste, il lui avait un peu mordu le doigt. Et tu sais ce qu'elle lui fait? Ce qu'elle lui fait au cheval?
Elle lui fait quoi?
Elle lui donne un coup dans le cou et elle lui pince l'oreille.
J'ai envie de dire quelque chose.
Révolution pour les chevals. Pourquoi on doit les faire avancer avec un fouet?
On a vu la prof qui fouettait un cheval pour qu'il y va plus vite.
Alors que le mot au galop, on ne l'a pas inventé pour rien. Elle aurait pu dire au galop et il aurait quand même couru.
Comment ça s'appelle le jeu que vous avez inventé?
On n'en a pas inventé le jeu.
Le lancer de...
La caca des vaches.
Ah oui, le lancer de bouche de vache. Et...
La frise-bouse.
Ouais, un peu. Et on a 10 à 2. C'est moi qui a 10. Maman, elle a 2.
Alors, je vais vous chanter Adolescente pirate de Léa Fassi. Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros. Solitude dans le rétro, j'éteins mon ego. Sur le cœur des Jedi, les yeux pitreux, je les mitraille. Un peu saoul sous matricule, j'écume la nuit noire. Je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescente pirate sur les plages de bitume. Où chaque nuit je m'évade, je voyage, 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 voyage. Je voyage, 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 je voyage. Je n'écoute plus ce léopard qui me raconte des histoires sous le blouse de motard, à côté au bar. J'éteins le rigot, je n'ai plus les regards. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescent pirate sur les plages de bitume. Où chaque nuit je m'évade, je voyage, 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 voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage.
Your life, you only see oriental, you steady working that dental, you popping off at the lip and run your mouth like a treadmill, not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. these mipsters, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these sunnis, these shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Vous êtes de retour sur Radio Canu 102.2 et sur Lilith Martine et les autres. La musique qu'on vient d'écouter, c'est Mona Aïda, Hijabi. Et maintenant, bonjour Sidi.
Bonjour.
On va parler un peu. Tu es allée à la 4e édition du festival féministe Chouftou Hana à Tunis. Et est-ce que tu voudrais bien nous présenter un peu le contexte du festival, s'il te plaît ?
Alors, c'est un festival qui a lieu pour la 4e fois à Tunis. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le Théâtre National, donc en plein cœur de la Médina de Tunis. Et bon, le contexte, vous l'avez peut-être vu un peu avant, le contexte féministe en tout cas, c'est la lutte qui a eu lieu pour l'égalité face à l'héritage, entre autres. Et comment dire, je me perds un peu, il y a tellement de choses à dire sur ce festival, j'en reviens à peine et je suis encore toute chamboulée.
Alors par exemple, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, il y avait 4 jours, c'était organisé autour de quoi ?
Tout à fait, mais oui, c'est bien sûr.
Et quelles étaient les thématiques ? Est-ce qu'il y avait des thématiques spécifiques ?
Mais tellement, oh là là. Donc c'est un festival qui a eu lieu du 6 au 9 septembre et en 4 jours il y a eu une programmation un peu exceptionnelle, donc des conférences, des expositions, des performances, des pièces de théâtre, des concerts, des DJ sets aussi, et certainement des choses que j'oublie, des lectures de poésie, etc. Donc on était en tout 150 artistes ou intervenantes, en tout cas militantes, féministes, et je tiens à le mentionner, c'était assez merveilleux de débarquer dans la Médina en 150 meufs un peu warrior comme ça et tout qui arrivent au Théâtre National. C'était impressionnant, je pense, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et pour cette année, les organisatrices, qui sont une vingtaine, ont décidé de supprimer la compétition, puisqu'auparavant, il y avait, enfin moi je ne le savais pas, mais il y avait, voilà, il y avait une compétition dans plusieurs catégories. Et cette année, elles ont décidé que la compétition existait déjà dans beaucoup de domaines, et que là, l'occasion était plutôt bonne de juste laisser la liberté de s'exprimer à autant de femmes. Donc ce sont des organisatrices qui sont qui travaillent ou qui sont étudiantes, qui comme je disais, qui sont une vingtaine et qui portent ce festival via une association qui s'appelle Chouf et qui aide à la concrétisation de ce très grand festival.
Et alors toi, tu as fait une intervention sur le mot beurette. Tu peux un peu nous présenter un peu ton intervention ?
Oui. Alors, j'ai fait une intervention au sein d'un panel qui s'est appelé « Féminisme décoloniaux en contexte occidental ». Et mon intervention concernait la nécessité de la réappropriation du mot « beurette ». C'est un mot sur lequel j'ai déjà travaillé dans une performance que j'ai appelée « Beurette d'Alger dans leur appartement ». Et où, à mon sens, l'an zéro de la beurette est 1834, donc le moment où Delacroix a peint « Femme d'Alger dans leur appartement », en sachant qu'il l'a peint à Paris. Voilà, là-dessus, ce que je disais, c'est entre autres que, comme le mot « queer » et le mot « nigger », on a besoin de se réapproprier ce mot parce que je pressens un, comment dire, un début de mouvement culturel, en tout cas, autour de cette notion de beurette, de ce concept. Il me semble important de prendre plus de place dans les médias, mais surtout d'un point de vue politique, et de se regrouper, comme ça a déjà été le cas lors de l'événement Beurettocratie qui a eu lieu à Lyon. Donc de se retrouver, et pour ça je proposais entre autres d'arborer fièrement le mot beurette avec un t-shirt que j'avais créé pour l'occasion. Donc, ça a été vraiment fort en émotion, bien reçu. Tout le monde ne savait pas forcément c'était quoi ce mot. C'était intéressant aussi de l'expliquer dans ce contexte à Tunis.
Parce qu'il faut quand même peut-être le recontextualiser en France. En fait, il a émergé en France dans les années 80.
Oui, dans les années 80, où en fait il était essentiellement le féminin de beurre, avec quand même ce suffixe diminutif "-ette", qui fait que finalement c'est pas un mot qui a fait les premières pages des journaux comme le mot beurre dans le sens politique. À un moment il a un peu disparu, il est réapparu au début des années 2000 pour être maintenant le mot le plus recherché par les amateurs français de pornographie. Bon, ça c'est un effet mondial de recherche de termes comme interracial, etc., dans la pornographie globalement. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, et bien c'est là-dessus que je creuse. Et donc voilà, maintenant, on n'ose même plus l'utiliser dans les journaux comme avant, il y a quelques années, pour dire « oui, Rachida Dati est une beurette » ou autre, pour la décrire, pour la définir. On n'ose plus parce que c'est vraiment devenu un mot trop sexualisé, trop tabou, trop honteux, trop une insulte, surtout parmi les jeunes, qui, même entre deux blanches, vont s'insulter de beurette parce que t'as trop de fond de teint, parce que t'as trop de rouge à lèvres, parce que tu gueules trop quand tu parles, ou d'autres choses complètement absurdes. Et voilà, moi j'ai plutôt envie de dire la vraie beurette là c'est moi, et je suis plutôt bien contente. Donc voilà, c'est un petit message pour toutes mes habibas là. on va se réunir, on va faire mal.
Et alors par rapport à ce festival, ça t'a donné quoi comme envie maintenant en revenant en France?
Alors, premièrement, ça m'a rechargé en énergie pour, je pense, les 3 prochaines années.
Eh, c'est pas mal.
Donc déjà, je compte bien y retourner. Ensuite, comme je viens de le dire, ça m'a donné l'envie de plus retrouver des meufs comme moi, de plus se réunir et de plus se rendre visible, de plus s'auto-définir. Personnellement, c'est vraiment une étape importante dans cette espèce de long trajet de recherche artistique et politique, etc., qui fait que, en fait, quand j'ai fait des études à l'école des Beaux-Arts, moi j'avais déjà entendu ce mot-là, mais c'est un prof qui me disait ça, donc professeur, donc qui détient le savoir, qui détient le droit de me donner des crédits ou pas, et qui me parlait de ce mot, mais qui à la fois parfois m'appelait par le nom de sa femme parce qu'il se trompait. Et du coup, bon, à ce moment-là, je pouvais absolument pas accepter ce mot-là. Pareillement, on disait que je faisais de l'art féministe, mais c'est pareil, moi c'était je pouvais pas l'entendre de la bouche de ces personnes. Alors aujourd'hui, c'est assez terrible de pouvoir reprendre ce pouvoir-là. Et à Tunis, au Maghreb, quand même, c'est pas anodin. Et dans ce contexte-là, avec tant de merveilleuses personnes rencontrées sur place, c'était merveilleux.
Super, merci beaucoup. Et on continue par une autre carte postale.
La manière dont on a d'envisager notre trajectoire, c'est par rapport au vent, sûr. Okay, parce que c'est ça qui nous propulse. Donc, la première position, c'est celle-ci. Là, on est face au vent. Face au vent, même si on a tout tiré sur nos voiles à fond, elles vont jamais pouvoir se gonfler. Il est strictement impossible d'avancer face au vent. Okay. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a un angle, un cône.
Printemps, été, 2010. Chère Lilith, l'été commence parfois au printemps. Il s'y termine aussi. Le mien a commencé entre meufs propulsées par le vent de l'océan.
Il y a de la négation dans la pédagogie.
Chère Lilith, dans cette carte postale d'été, il est question de printemps, d'océan et de propulsion grâce au vent, de compilation dans l'autoradio sur la route de l'été, mais aussi dans la canicule lyonnaise. Surtout même.
Chasse de contrôleur, chasse de contrôleur. Trauma le chasseur, trauma le chasseur. Fait qu'il passe un sale quart d'heure, passe un sale quart d'heure. Et ramène ton 4 heures, ramène ton 4 heures.
Bon, alors c'est pour ça que du coup il va y avoir autant des bruits de bateaux que des bruits de playlist musicale de l'été. Voilà. C'est ça que je vais faire en fait.
C'est une voile en plus.
Ah, c'est normal mais.
Histoire de. C'est surtout raconter en fait. Le fait d'avoir fait du bateau entre meufs. Et les sons qu'on a pu prendre de ça.
Ah, on fonce un peu sur. Ah non.
Le cata là, non ça va. Fera gaffe, je pense qu'il va devoir abattre un peu pour établir son spi. Ouais, ce qu'il est en train de faire.
On Et va... il se rabat sur nous.
On va abattre 10 degrés aussi. Bah ouais.
Et en même temps, vu que je vais pas raconter mon été relou de mémoire, tout ça là, des trucs un peu chiants que j'ai fait, et ben plutôt dire c'est quoi la musique que j'ai écoutée. Voilà. C'est ça que je vais faire. Ok, bon.
Poum poum poum. On vient de part et on va. Non, ça passe là, ça passe devant. On va abattre encore un peu, 10 degrés de plus.
L'été au printemps, finalement, c'est ça.
En fait, si tu veux qu'un croisement aille vite, tu prends la route la plus perpendiculaire à lui.
Tu veux que quoi arriver ?
Qu'un croisement ?
Ouais.
C'est comme quand tu traverses la rue, finalement. Ouais. Lui, il a fallu, c'est fou. Bref, mais intense. Donc ouais, donc dans ces cas-là, c'est... Ça fait un peu impressionné, mais vaut mieux prendre la route la plus perpendiculaire à la Seine. Allez, franchement.
Mais lui, il a changé aussi, du coup.
Bah lui, du coup, il a tenté de mettre une voile. On va tenter de mettre la... Non, la même. Sauf que c'est une voile qui a des contraintes. D'où le tableau, quoi.
Ouais, ok.
Il y a des contraintes. Il y a une plage d'utilisation, en fait.
Ok.
Et il s'est rendu compte que la trajectoire qu'il voulait faire par rapport aux contraintes de sa voile était point incompatible. Et donc, il l'a hissé pour la réappeler à...
Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. And boy, it's hurting my head. It's the middle of October. And we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no...
Donc, plus tu te rapproches du vent, dans ce sens-là, plus tu fais ce qu'on appelle l'offé, plus tu t'en éloignes, plus t'abats. Et après, le nom de chaque position par rapport au vent, c'est une allure, un nom. T'as le pré, t'as le travers, t'as le grand large, le vent arrière, machin, tout ça, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais si tu le retiens pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'envisage ma trajectoire par rapport au vent, donc tout ce que je fais, je vais considérer mon référentiel, c'est le vent, et je vais me dire... Soit je m'éloigne du vent, soit je m'en rapproche. C'est tout le temps ça, c'est de cette manière que je vais résoudre de manière systématique. Okay. Et si je m'éloigne du vent, là, va falloir que je touche à mes voiles. Si je m'en rapproche aussi. Donc plus je m'éloigne du vent, si on n'avait pas un, je lâcherai un peu tout ça pour laisser respirer mes voiles. En contrario, plus je me rapproche du vent, plus je les ramène dans l'axe du bateau. Easy. Et après tu vas voir, on va faire un essai. Les sensations sont très différentes. Je te prends d'abord de vous-même. Ouais. Là, par exemple, si j'abats. Voilà. Hop. Ah, c'est pas pareil, hein.
C'est clair.
En termes de sensations, tu vois, là, on a chaud, le bateau est à plat, on a l'impression qu'on n'avance plus. Une once, on va plus vite en fait.
Ah bon ?
Ouais. Ouais. Parce que
t'as l'impression qu'il y a plus de vent.
Tu demandes encore mon numéro. Je laisse ma moon cap sur ton bigo. Si t'insistes, je te défigure. Tu sentiras le de feature. Tu vas comprendre ma vraie nature. Mon kick n'est pas une imposture. Je te ferai voir. Tu fais des 40 quand je me vénère. Non, je sais pas marrant. Vas-y, dégage, tu me plais pas. Je fume ma clope, vire de là. Je trouve un standard. Arrête, je viens. Et quand la belle que la mélancolie la
pendant que les chants brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la peine ondule, que jamais rien ne m'atteint.
Martine et les autres et vous écoutez Radio Canu, il est 17h28.
Et maintenant dans Lilith, Martine et les autres, c'est la rubrique sport.
They didn't let Serena Williams wear her catsuit, she came out in a tutu. Ils n'ont pas laissé Serena Williams porter sa combinaison, elle est arrivée avec un tutu. Voici ce qu'a tweeté fin août une fan de la talentueuse joueuse de tennis américaine Serena Williams. En effet, lors de l'US Open, celle-ci portait un tutu noir, des collants résis et des baskets blanches. Cette tenue originale n'a évidemment pas été choisie au hasard. C'est une réponse à la polémique qui a eu lieu 2 mois auparavant. À Roland-Garros, la championne avait eu droit à des remarques sur son vêtement, donc à ce moment-là une combinaison noire, inspirée du film Black Panthers, mais surtout qui était un dispositif médical destiné à lutter contre ses problèmes de circulation. Le président de la Fédération française de tennis, après avoir eu une petite phrase désobligeante, a interdit à Serena Williams de porter cette combinaison l'année d'après. Alors bien sûr, on peut y voir une forme de sexisme puisque cette tenue ne répondait pas aux normes de féminité oppressive et patriarcale du sport de compétition. Mais la joueuse américaine n'est pas la première à subir ce genre de sanctions. Si on remonte dans le temps, dans les années 20, la Française Suzanne Langlands est critiquée pour avoir porté une jupe, attention, au niveau du genou. Alors que la norme à l'époque, c'est jupe longue, chemise et corset, très pratique pour faire du tennis en plein cagnard. Et finalement, si les manches et la jupe se sont raccourcies au fil du temps, c'est seulement grâce à l'audace des joueuses match après match. Malheureusement, la finale de l'US Open a été assez dramatique pour Serena Williams. Elle s'est pris une sanction pour avoir traité l'arbitre de voleur parce qu'il lui avait enlevé des points en pensant qu'elle avait triché. Donc là, elle a perdu son sang-froid et elle a perdu le match. On va écouter ce qu'elle explique dans une conférence de presse quelques temps après.
I'm here fighting for women's rights and for women's equality and for all kinds of stuff. And for me to say thief and for him to take a game, it made me feel like it was a sexist remark. I mean, like, how he's never took a game from a man because they said thief. The fact that I have to go through this is just an example for the next person that has emotions and that want to express themselves and they want to be a strong woman. And they're going to be allowed to do that because of today.
Je suis là à me battre pour les droits des femmes, l'égalité et d'autres choses. Et pour moi, recevoir un jeu de pénalité parce que j'ai dit voleur à l'arbitre, j'ai eu le sentiment que c'était sexiste. Il n'aurait jamais donné une pénalité à un homme pour ça. Le fait que je subisse ça montre que les personnes qui ont des émotions, qui veulent s'exprimer et être des femmes fortes, n'y sont pas autorisées. Donc du coup, la remise des prix à cette finale était électrique. Ça huait dans le public au moment de donner la médaille. Et la jeune joueuse Naomi Osaka, qui a gagné contre Serena Williams, était super émue et désolée de la situation. Voilà, pour finir cette rubrique, je voudrais juste dire un petit mot sur la biographie de Serena Williams, parce que c'est quand même intéressant de savoir ça. Elle vient d'une famille pauvre de Los Angeles. Avec sa sœur, elle s'entraîne dès l'âge de 3 ans sur un vieux terrain de tennis à l'abandon. Et à 14 ans, elle débute dans le circuit professionnel. Elle a joué avec sa sœur en double et contre sa sœur aussi parfois. Et elle a remporté plein de titres, hein, dont 39 titres au Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est le fait de remporter la même année les 4 tournois majeurs du circuit international. Bref, c'est une badass du sport et féministe par-dessus tout ça, on aime.
Wesh Lilith, ça va? Et Martine, elle a passé de bonnes vacances? Et les autres aussi, elles ont la pêche? Ben, alors je t'envoie une petite carte postale sonore de mon été. Alors plein de choses. Ben, tout d'abord, en joie, j'aime bien cru que j'allais pas avoir d'été. Connu ? C'est le générique de quoi ? Mais ouais, c'est urgence, vive les années 90. Mais en fait, c'était pas cassé. Alors après, j'ai pu marcher, et en marchant, on a bien trippé sur cette chanson. Et on a pu beaucoup rigoler sur cette chanson, en changeant un peu le petit refrain comme ça, et vous allez voir bientôt, ces contre-refrains, en fait, il était complètement différent, mais c'est tellement une belle chanson qu'on a tellement rigolé cet été. Puis je suis partie.
Please proceed to gate number 5 for immediate boarding.
Pour continuer l'apprentissage de l'arabe.
Alif, A, B, B. تاء ت ثاء ث جيم ج حاء خاء خ دال د.
Et aussi, j'ai habité avec des gens super où on a beaucoup ri. On a eu des envies de révolte. Et plein d'émotions.
Como decir que me partes mil la esquinita de mi hueso. han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Et voilà, nous voilà de retour à Lyon pour de nouvelles aventures. Plein de pis et à tout vite, vous m'avez trop manqué, Lilith, Martine et les autres.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Sorbiste el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
Chère Lilith, cet été, nous sommes partis à l'Ouest. On s'est découvert plein de nouvelles passions. Par exemple, le loting car.
Oh, c'est pas mal. C'est même bien, parce que c'est pas loin de la plage, pas loin du village. Tout pourrait être bien. Si, mettons, ça ne nous plaît pas, oui, sympa. Ah, c'est pas triste.
Ou encore les balades de nuit au milieu des dunes. Ou les balades de jour à l'ouverture de la chasse aux canards. La dégustation quotidienne avec du vin blanc sur les plages de Bourgeois. Et enfin, le camping au milieu des bousses de vaches et des passionnés de son.
On entend de l'eau qui tombe dans une bouteille d'eau en plastique. Et c'est le point d'eau potable. On est à la cour des Aulnay et on est à Utopie Sonore 2018.
L'intention de départ, c'était de faire quelque chose d'informel, une rencontre entre tout un tas de gens intéressés par les mêmes activités, on va dire, qui tournent autour du son, de la création radio, et, mais de manière assez différente.
Mais alors vraiment, vraiment passionnée de son.
J'aime beaucoup enregistrer des choses et j'aime beaucoup le montage.
Et du coup, chère Lily, tu t'en doutes, qu'est-ce qu'on a fait ?
Du son.
Du son ?
Du feu.
Du son.
Du feu.
Et quand tu t'occupes pas du feu, tu t'occupes de quoi ?
Je vais animer un atelier sur le cul, qui s'appelle le cul radiophonique, autour de nos désirs et sexualités diverses et variées.
Oh, mais il est chaud ! Oh, mais j'ai chaud ! Ah oui, bah ça, il fait chaud.
Mais ça va, Sabine ?
Mais ça va super bien, j'adore ça !
Bon, on n'a pas fait que des créations sonores.
Ah oui, on a aussi très bien mangé.
Donc on a 12 kilos de semoufine, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Si quelqu'un a une recette...
J'ai plus des oignons et je souffre un petit peu. Ça me fait pleurer. J'ai un peu de peine pour ces oignons.
Et puis, on a rencontré plein de copines super. On a pas mal discuté. On a aussi parlé de sujets politiques.
On cherche des alliés, en l'occurrence. Mais il y en a sûrement, j'en suis persuadée. Radicalité, non-mixité, décolonisation de l'esprit.
Bon, parfois, on s'est aussi pris la tête.
Ça me saoule au plus haut point de parler avec des mexistes de féminisme.
Car oui, chère Lilith, ne t'inquiète pas, même en vacances, on reste toujours féministe.
Si on en a marre, on peut partir, parce qu'il y a les clés sur le bouton.
Ouais, je pense que c'est aussi une voie de sortie. C'est une possibilité de fuite.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see oriental, you steady working.
Bon bah moi, chère Lilith, au lieu de faire une carte postale sonore où j'aurais raconté comment j'ai cassé un WC, d'ailleurs pourquoi faut pas le détartrer avec un spatule et un marteau, puis tout, derrière tous les trucs autour du WC, que t'as plus de WC chez toi et tout ça, d'ailleurs comment pas faire des gars des eaux, bah moi j'ai plutôt voulu vous faire écouter le discours de Carole Thibault, une autrice, metteuse en scène et comédienne qui a ouvert sa gueule pendant le Festival d'Avignon. Et bah elle fait pleurer, voilà, du coup bonne écoute et puis bah c'est chouette d'avoir un WC chez soi.
Le Jeanne Laurent, Catherine Bernard de Celle qui fait tout, mais alors tout, est attribué à Carole Thibault.
Autrice, metteuse en scène, comédienne, Carole Thibault dirige depuis janvier 2016 le Théâtre des Ilets, Centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes. Artiste engagée, elle milite pour l'égalité des femmes et des hommes, notamment à travers le mouvement HF. Après avoir mis en scène des œuvres classiques et contemporaines, elle travaille depuis une dizaine d'années à partir de ses propres écritures. Tirant un fil continu entre écriture nouvelle et écriture poétique, elle explore toutes les formes d'écriture et d'expression scénique. En janvier 2018, sera créée au Théâtre des Ilets La Petite Fille qui disait non, abordant le sujet de la transmission.
Merci Grégory.
J'adore faire la voix.
C'est bavard, ces mecs.
Je vous remercie pour ce Molière. Probablement le seul Molière que je recevrai jamais. Ce n'est pas une question de talent. Il n'est pas question ici de talent. Je suis désolée, j'avais commencé à écrire un truc rigolo. Un de ces trucs pour lesquels on fait appel à moi de temps en temps. Tiens, si on invitait Thibault, elle est rigolote, Thibault. C'est une excitée rigolote. Elle nous casse bien un peu les coucougnettes avec ses histoires d'égalité femmes-hommes, mais elle est rigolote. Elle pique des gueulantes rigolotes, bien brossées, puis elle met des jolies robes, elle porte bien, elle fait des ordres polissés. On devient vite le clown de service, le bouffon du roi. Et ici, le roi, comme ailleurs, c'est la domination masculine. Il a beau faire genre le roi, il est et reste la domination masculine. Et moi, j'en ai marre d'être la bouffonne de service de la domination masculine. Il y a 2 ans, ici même, Thomas m'avait invité à écrire et dire un texte sur l'absence des autrices, des auteurs femmes, donc, dans le Festival d'Avignon depuis sa création. Plus précisément dans la cour, la grande cour du théâtre, la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'est comme les Molières. Quand tu es une femme artiste, enfin une de ces femmes qui a la prétention d'être de ce côté-là de la création, je veux dire autrice, metteuse en scène, conceptrice d'œuvres. Quand tu es une de ces bonnes femmes qui a cette prétention-là, tu sais que tout ça n'est pas pour toi. Mets-toi bien ça dans le crâne, petite bonne femme créatrice, la cour d'honneur et les Molières ne sont pas pour toi. Ou alors tente le jeune public. Le jeune public, ici, c'est un endroit réservé aux bonnes femmes créatrices. Il y a 2 ans, donc, j'étais ici même en train de déblatérer un texte sur la quasi-absence des autrices dans le festival IN à l'invitation de Thomas. Cette année, 2 ans après, Thomas joue dans la cour d'honneur et moi, je suis de nouveau ici, invité cette fois par David, en train de déblatérer devant vous un texte censé être rigolo et bien enlevé sur la situation des femmes artistes créatrices. Il y a 2 ans, j'avais encore l'espoir que ça change, puisqu'on parlait, on en parlait ici, dans le cadre du festival IN, justement, de la non-représentation scandaleuse des femmes dans ce festival depuis sa création. Il y a 2 ans, j'avais mis une belle robe et j'avais donc pondu un truc bien brossé, enlevé, rigolo, à la façon Thibaut rigolote. Et tout le monde avait bien ri. Et puis chacune et chacun était reparti à ses petites affaires après notre grande fête estivale du théâtre. Cette année, 2 ans après, donc, la programmation du festival IN, hors jeune public, présente 9% d'autrices femmes pour 91% d'auteurs hommes. Pour les 2 spectacles jeune public, elle représente 75%. Cette année, 2 ans après, la programmation théâtre représente 89,4% d'artistes créateurs hommes, auteurs et metteurs en scène, pour 10,6% d'artistes créatrices femmes. Cette année, 2 ans après, sur la totalité des spectacles et expos programmés dans le festival IN, on recense 25,4% d'artistes créatrices femmes. Et encore, on peut remercier la SACD qui exige dans les sujets à vif la parité. Sans ces petites formes performatives de 30 minutes chaque, il ne faut rien exagérer non plus, on ne serait même pas à 20% d'artistes créatrices femmes programmées. Je parle des spectacles, hein, pas des lectures. Hein. Il suffit d'ouvrir le programme et de compter. C'est ce que j'ai fait l'autre matin. Une fois. 2 fois. 3 fois. Pour être bien sûr. Parce que j'arrivais pas à y croire. Et puis après, je me suis mise à pleurer. Moi, la grande gueule rigolote, je m'y suis mise à pleurer comme une conne. On a beau être habitué, on a beau connaître tous les pièges, tous les cynismes, tous les détours de l'humiliation, être blindé après tant et tant d'années de ça, il y a des fois où ça craque malgré tout. Mais franchement, pleurer devant un programme du IN, c'est la honte. C'est minable même. À l'heure où peut-être un nouveau bateau rempli à bord de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards sombrés en Méditerranée, avec lui tous ces êtres qui s'en allaient ainsi par le fond nourrir les poissons, nous épargnant d'avoir partagé avec eux nos richesses dégoulinantes de paradis de la consommation. Bref, c'est pas le sujet. Ici, nous sommes dans la grande fête du théâtre et je viens de recevoir un gros pavé. Il faut sourire, mettre des belles robes, être joyeux, léger et quelque peu potache. Mais cette année, je suis désolée, David. J'ai pas envie de faire la bouffonne de service en polissant ma colère brossée rigolote dans une joyeuse fête sur le genre. Dans un festival que certains journalistes qui auraient mieux fait de faire leur travail de journaliste ont qualifié de festival féministe. Cette année, j'en ai ma clap d'être la copine sympa de tous les copains sympas, les copains qui ont plein de copines femmes, les copains qui interrogent le genre, qui interrogent tout ce qu'on voudra pendant que rien ne change. J'en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de parole, venir s'asseoir dans l'obscurité des salles pour recevoir là, bien sagement, la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes, en majorité blancs. D'accord pour l'intersectionnalité des luttes, d'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles ? Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front populaire, elles se sont fait niquer en 68, et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018, ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre. Et dont une des seules rencontres thématiques programmées qui abordent le sujet s'intitule « Les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement ?» Je n'épiloguerai pas sur le concept du grand remplacement, concept xénophobe développé actuellement par l'extrême droite. C'est page 27 du programme, si vous voulez vérifier. Et si vous voulez, par hasard, aller y faire un tour aujourd'hui, c'est à 14h30, aujourd'hui même, aux ateliers de la pensée. Et c'est comme ça qu'on se fait niquer depuis des siècles, des décennies, des années, des mois. C'est pas seulement sociétal, politique. Ça s'inscrit dans nos chairs, dans les recoins les plus obscurs de nos cerveaux, dans nos inconscients, nos subconscients. Ça gangrène toutes nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres et des statistiques. Et pourtant, cela, il faut les faire, les analyser, pour regarder bien en face notre humiliation, pour regarder bien en face le système qui nous exclut au grand jour, aux yeux de tous, sans que personne y trouve à redire, quitte à se mettre à pleurer, alors comme une conne, comme une pauvre fille qui a cru cette fois au grand amour, à la rencontre possible, et qui se retrouve au matin toute seule après s'être fait niquer encore une fois. Oui, cette année, le in fait genre. Parce que le phallocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays, et particulièrement ce petit milieu cultivé, si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier. Le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tout le milieu intellectuel, artistique et culturel de ce pays. Ils sont la honte de chaque artiste de ce pays et d'ailleurs de chaque institution qui ne respecte pas une juste redistribution de l'argent public, de chaque directeur de lieu, de galerie, de festival qui ne fait que représenter et reproduire à l'infini la pensée dominante. L'écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres chaque année. C'est un crime qui se perpétue depuis des millénaires et qui se poursuit partout et trouve ses racines malheureusement ici aussi, sur ces espaces sacrés du théâtre qui devraient être au contraire les lieux sacrés de la parole libre et émancipatrice. Je ne veux pas de ta récompense, David. C'est comme un gros pavé reçu en pleine gueule. Et hors les chiffres, désormais sachez-le, nous ne croirons plus rien pour ne plus subir la honte de pleurer encore.
C'est la fin de Lilith, Martine et les autres.
Oh, déjà
et oui. On a encore 10 minutes.
Et si c'est la fin de Lilith, Martine et les autres, quand c'est les cartes postales de rentrée d'été, c'est-à-dire qu'on va vers l'automne.
Mais c'est bien l'automne. Non. On peut sauter dans les feuilles mortes et tout. Non,
on peut manger du raisin.
Boire du vin, voilà, qui a été vendangé.
Et après, il commence à faire nuit à 5h du soir. Le matin, il n'y a pas de jour.
Comme si on ne pouvait pas boire du vin en été. Hein.
Non, non, chaud en été, ça marche très bien aussi. Hein.
Et donc, on va encore raconter de l'actualité qui s'est passée cet été, notamment le décès de Vanessa Campos, qui est morte dans la nuit du 16 au 17 août. 7 à 8 hommes s'en sont pris à elle. Cela fait suite à d'autres agressions antérieures. Il s'agirait probablement d'une bande d'hommes qui agressent régulièrement les travailleuses du sexe et leurs clients pour les voler. Ce phénomène de bande visant les travailleuses du sexe tend actuellement à se développer dans toute la région Île-de-France. Celles qui tentent de s'organiser pour se défendre et les chasser sont ensuite prises à partie séparément. C'est par le STRAS, syndicat des travailleuses du sexe, que nous avons ces informations et on va continuer à vous lire des boules de leur communiqué.
Aujourd'hui, nous pleurons cette perte et nous sentons, comme d'habitude, abandonnés. Les assassinats de femmes trans travailleuses du sexe n'ont rien de rare. C'est un phénomène récurrent et régulièrement, nous tentons d'alerter l'opinion publique et les autorités sur ces violences. Malheureusement, comme toujours, nous nous retrouvons seuls. Pourquoi la vie des femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe importe-t-elle si peu? Pourquoi nos morts sont-elles traitées uniquement comme des faits divers? Pourquoi les journalistes sont-ils si ignorants ou si irrespectueux qu'ils titrent sur la mort d'un prostitué travesti et continuent de nous mégenrer jusque dans la mort? La vie d'une pute ne compte-t-elle pas ?
Nous avons en nous cette étrange impression que nos morts ne suscitent aucune émotion. Pour nous, il n'y a jamais de deuil national. La classe politique reste muette. Une fois les articles de presse sensationnalistes passés, c'est le retour au silence. Et on doit retourner travailler, la peur au ventre, en attendant d'être peut-être la prochaine.
Une femme trans tuée, ça ne reste qu'un travelot. Cette insulte qu'on entend tous les jours. Cette remarque à laquelle on fait face toute sa vie, y compris dans des mouvements politiques qui se disent progressistes et féministes.
Tu n'es pas une vraie femme. Et nous comprenons parfaitement ce que cela signifie, à savoir que nous ne faisons pas partie de cette humanité normale qui a droit au respect de sa vie. Nous sommes traités comme une sous-espèce qu'on peut écraser comme un insecte, au point que la police, ceux qui sont payés pour protéger les citoyens normaux, nous harcèlent quotidiennement, nous collent des amendes et détruit nos tentes au cul de terre, nous appellent monsieur pour nous humilier et nous placent en détention dans des cellules pour hommes où nous sommes agressés par nos co-détenus. Donc l'entièreté du communiqué est sur le site donc, de STRAS, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Et sur On n'est pas des cadeaux, il y a un lien pour réclamer vérité et justice pour Vanessa Campos et soutenir les proches et notamment sa sœur qui a besoin de soutien financier. Et voilà, et on continue avec donc, un communiqué... contre les mutilations faites aux personnes intersexes.
Le collectif intersexe allié a lancé cette pétition adressée à Mesdames les ministres de la Santé et de la Justice. Aujourd'hui en France, les enfants intersexes qui présentent des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires, typiquement mâle ou typiquement femelle, que ces caractéristiques soient visibles à la naissance ou apparaissent plus tard au cours de la vie, notamment à la puberté, sont toujours soumis et soumises à des opérations chirurgicales et ou des traitements hormonaux sans leur consentement éclairé et sans nécessité de santé.
Ces actes constituent des violations des droits humains et ont été condamnés à plusieurs reprises par l'ONU en 2016, Comité des droits de l'enfant, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et Comité contre la torture.
Des associations internationales de défense des droits humains telles que Human Rights Watch et Amnesty International se sont ouvertement positionnées pour l'arrêt de ces pratiques. En France, la DILCRA appelle à l'arrêt de ces mutilations. En mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et en juillet, le Conseil d'État ont publié des avis dans le même sens.
Pourtant, les protocoles médicaux continuent à recommander ces pratiques et les équipes médicales à les effectuer. Nous réaffirmons que les variations intersexes sont des variations saines du vivant et dans leur immense majorité sans danger pour la vie de l'enfant. Elles ne devraient pas conduire à de la stigmatisation et à de la médicalisation inutile et néfaste. À l'instar de l'homosexualité, l'intersexualisation n'a pas à être soignée. C'est à la société d'accepter sa propre diversité. Le soutien psychologique d'un ou d'une enfant et de sa famille doit être librement choisi. Et approcher la question de la manière non stigmatisante et non pathologique.
Le droit des enfants à l'intégrité physique et sexuelle est un droit inaliénable. Pour les enfants intersexes comme pour les autres, cela implique le droit de choisir si, quand et comment leur corps sera modifié. Cela implique l'exercice de leur consentement libre et éclairé à un âge où il est possible de prendre une décision mature qui aura des conséquences importantes et avec des informations provenant de sources variées, notamment d'autres personnes intersexes.
Il n'y a aucune urgence à agir médicalement sur un corps sain d'enfant. Il n'est pas du ressort des médecins ou des parents de décider d'attenter à l'intégrité physique d'un ou d'une mineure sans nécessité vitale. Une circulaire de rappel à la loi s'impose. C'est à l'enfant intersexe, lui, elle-même, de décider. Changer son corps ou non, ce sera son choix.
Tell you that it's been
c'était Aretha Franklin qui est partie cet été en même temps que ma grand-mère d'ailleurs. Voilà, donc spéciale casse dédiée à Aretha et Edith, deux super femmes. Et ce week-end, alors qu'est-ce qu'on peut faire à Lyon ? Eh ben, il y a les journées du matrimoine qui sont organisées par HF. C'est de l'association d'ailleurs dans laquelle Carole Thibault, qu'on a entendu tout à l'heure, l'émouvant discours, voilà, elle milite dans cette association. Et donc, ils organisent, ça fait depuis quelques années qu'ils organisent les matrimoines. Donc, c'est comme une sorte de journée ouverte du patrimoine, mais version féministe. Et voilà, donc il y a plein d'événements. Vous pouvez retrouver tout le programme. Je ne vais pas vous le dire, mais cherchez sur internet. Vous tapez matrimoine HF Rhône-Alpes et vous allez trouver plein de choses intéressantes.
Et alors, on va devoir vous quitter. Oh non,
non. On se retrouve dans deux semaines.
La semaine prochaine, vous allez avoir. On n'est pas des cadeaux. Ça va être aussi super. On vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 et Martine Lévite et les autres ont terminé pour ce soir. Au revoir.